Olivia, c'est à vous, la grande table.
Merci beaucoup Antoine, merci. On vous retrouve à 12h30 pour développer ce titre, ce sera donc le journal. Bonjour à tous. Comme un jeudi, eh bien on va relire « Oui, mais quoi ? La Révolution ?» d'abord avec le philosophe linguiste Jean-Claude Milner pour son essai « Relire la Révolution » qui vient de paraître aux éditions Verdier 1789. Cette année marque-t-elle une rupture historique et quel sens lui donner aujourd'hui ? On en reparle dans la deuxième partie de la Grande Table, ce sera à partir de 12h55. Mais d'abord, être fidèle avec Don Juan ou à la manière de notre premier invité est le comédien Nicolas Bouchot. Il joue actuellement chaque soir, ou presque, sur la scène du Théâtre de l'Odéon à Paris. Retour sur cette œuvre importante, phare et plus encore de Molière avec notre invité. La Grande Table se like et se tweet et se réécoute aussi sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Séduction, infidélité, faire fi des conventions, blasphémer et douter. Il y a un peu de tout ça dans Don Juan chez Molière, comme chez Jean-François Civadier, qui le met en scène actuellement au Théâtre de l'Odéon, jusqu'au 4 novembre, avant Vidi à Lausanne, du 23 novembre au 17 décembre, et Strasbourg en janvier. Le Théâtre National de Strasbourg, où vous êtes d'ailleurs artiste associé, toujours Nicolas Bouchot.
Oui, toujours.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Saisissant, impérial, prestance de fauve, noirceur de l'œil, tout en miel et en arrogance, il cajole, fait rire et terrifie, ça c'est le canard enchaîné. La délicatesse de sa grande carcasse, un mélange très physique de farce et d'ironie, un charme légèrement méphistophélique, sourcils relevés, ça c'est Libé. Ils ont la plume bien pendue, nos amis critiques de théâtre. En tout cas, pour une fois, on ne peut pas leur reprocher de l'avoir trempé dans l'acide. Ça va, vous tenez bon ?
Oui, ça va, je tiens.
Pardon,
je
ne voulais pas vous mettre mal à l'aise dès le début, mais... C'est vrai que vous êtes un peu goujat quand même en Don Juan et vous parvenez malgré tout à être attachant. Don Juan, c'est d'abord une façon d'être pour vous ? Dans la vie et sur la scène ?
Disons, surtout sur la scène, parce que dans la vie, ça serait un peu embêtant pour les gens proches de moi, si j'étais comme Don Juan. Mais disons que sur la scène, oui, c'est un personnage qui est au départ pas évident à interpréter, puisqu'il faut à la fois séduire et à la fois accepter tout à fait d'être un salaud, un menteur, un goujat... Enfin, c'est ce qui se passe dès la première scène avec Elvire. Donc oui, c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable et en même temps, il exerce une espèce de fascination sur les autres.
Mais c'est pas facile quand on interprète Don Juan aujourd'hui de se détacher de ce que veut dire être un Don Juan dans le sens commun. C'est ce que j'essaie peut-être de vous demander quelque part. On a tellement l'habitude de dire, lui, c'est un Don Juan. Alors est-ce que Don Juan est un personnage plus complexe qui va vraiment au-delà de cette expression ou est-ce qu'il est quand même d'abord ça ?
Non, je pense qu'il va au-delà de cette expression. Je pense que il faut faire une différence entre ce qu'est devenu l'expression qu'on utilise tous d'ailleurs, hein, c'est un Don Juan, à lui c'est un Don Juan, et puis l'histoire du mythe, je dirais, de Don Juan. Le mythe à l'origine sert à l'édification chrétienne avec Tirso de Molina. Mais dans Molière, Don Juan, c'est celui qui séduit, mais au sens premier étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est celui qui détourne l'autre de son chemin. C'est ça la séduction de Don Juan, c'est celui qui est dans le défi permanent, et puis c'est aussi, avec son acolyte Sganarelle, un blasphémateur, Don Juan. Donc je dirais que par rapport à l'expression de donjuanisme dont on peut user comme ça encore aujourd'hui, ouais, le Don Juan de Molière est quelque chose de plus large que ça. Alors... C'est pas seulement Don Juan et les femmes, la pièce. Hein. C'est d'abord à travers les femmes... Ce que Don Juan blasphème, c'est l'institution du mariage. Ça, c'est très important. Et puis Don Juan, il séduit les femmes aussi bien que les hommes. Voilà, il est... Et puis, il y a ce rapport qui nous est donné par le mythe de Don Juan et leur rapport au ciel. Donc à Dieu.
Et il s'en explique, vous l'évoquiez, dès la première scène, dès les débuts de cette pièce, écrite partiellement, on en reparlera, par Molière. Il s'en explique, il se définit, moi je le trouve assez convaincant.
Moi, je crois, sans vous faire tort,
que vous avez quelque nouvel amour en tête.
Bah, tu crois ?
Oui.
Mais tu crois vraiment ?
Bah oui.
Ouais, vraiment, tu crois ?
Bah oui.
Et ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un nouvel objet a chassé Elvire de ma pensée.
Et mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur. Pour le plus grand coureur du monde, il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place.
Ne trouves-tu pas ? Dis-moi que j'ai raison d'en user de la sorte.
Eh, monsieur !
Mais quoi ? Parle.
Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller la contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire.
Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments.
En ce cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.
Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse pour toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence où elle nous entraîne. J'ai beau être engagée, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres.
Alors, Don Juan manie d'abord le verbe comme personne, hein, Nicolas Bouchaud. On comprend bien à travers lui la force du langage et son pouvoir de conviction, parce qu'il est convaincant.
Ah oui, il est tout à fait convaincant. Ça, c'est le premier, c'est sa première profession de foi dans la pièce, qu'on appelle en général le monologue de l'inconstance amoureuse. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Don Juan, au début ? Il nous dit, on peut être d'accord avec lui, d'ailleurs. Faut garder sa liberté d'aller avec qui on veut. On n'est pas obligé de rester avec quelqu'un toute sa vie. C'est le premier sens de ce qu'il nous dit. Et puis, dès le début, à travers ça, dans ce monologue qui vraisemblablement est inspiré d'un passage de Ovide dans Les Amours et que Molière reprend, retravaille. Parce qu'il y a une caractéristique dans le théâtre de Molière, c'est que c'est un théâtre qui est fait de beaucoup de formes différentes. Les pièces de Molière sont très hybrides. Et il nous dit quoi, Don Juan, dans ce premier monologue ? Il commence par dire, c'est déjà le mariage qui l'attaque. C'est déjà un peu le mariage qui remet en question. C'est-à-dire que lui, il fait plutôt une profession de foi de la polygamie, là, Don Juan.
Oui, mais déjà, alors... Justement, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'il y a déjà un peu du marquis de Sade dans le Don Juan de Molière. Aujourd'hui, le libertinage est partout, Dieu dans cette sphère-là est presque nulle part, le mariage est une institution qui est déjà bien chahutée aujourd'hui. Sur ces questions de mœurs, quelle est la portée encore transgressive pour vous de la pièce ?
Elle est un peu diffuse, hein, elle est un peu partout dans la pièce. Aujourd'hui, sur les questions du mariage, je pense qu'on n'est pas au même endroit qu'au XVIIe. Puisque Molière appartenait à ce milieu qu'on appelle le milieu mondain, le milieu galant, où ça se passait dans les salons, où il y avait beaucoup de discussions sur l'amour, sur le mariage, et ces salons étaient très souvent tenus par des femmes. Donc par exemple, cette institution du mariage, elle a été quand même extrêmement discutée et extrêmement attaquée dans cette partie-là de la société. Mais non, je dirais que si Saint Paul nous dit « il vaut mieux se marier que brûler », Don Juan lui répond « il vaut mieux brûler que se marier ».
Il y a aussi une dimension très personnelle dans le texte que vous surlignez peut-être peu dans la pièce, c'est cette lutte de chacun quand même contre le temps qui passe, hein, l'inconstance, le jeu pour oublier le temps qui nous amène vers une mort inéluctable. Pourtant, à une époque qui cherche à repousser un peu toujours plus loin les frontières de l'âge, hein, cette espèce de mantra un peu hédoniste, ce culte de la jouissance, on ne vit qu'une fois, parce que c'est aussi ça la profession de foi de Don Juan. On aurait pu questionner, vous auriez pu questionner un peu plus cet aspect-là, vous pensez pas ?
Sur le rapport
dans le texte.
dans le texte.
Dans la manière dont vous faites vivre ce texte et dont il est mis en scène par Jean-François Sivelli.
Oui, oui, bien sûr. Il y a effectivement chez Don Juan, enfin à travers Don Juan, parce que Don Juan lui-même n'est pas un personnage, c'est pas Arnolphe, c'est pas Alceste, c'est pas un personnage qui arrive avec un plan dans la tête. C'est quelqu'un, c'est un personnage qui réagit, Don Juan, qui agit, qui jette son corps dans la bataille. Mais effectivement, à travers toute cette pièce, et là je dirais c'est plutôt, c'est Molière qui est à l'intérieur de ça, c'est que oui, il faut vivre, il faut pas avoir peur de la mort, et surtout on n'a pas besoin d'un système, donc d'un dieu, qui nous dirait, voilà, on vous prépare à la mort, après la mort, il se passe quelque chose. Non, non, vivons, vivons pleinement. C'est, si vous voulez, à partir de Don Juan, chez Molière, aussi beaucoup à cause de l'interdiction du Tartuffe, on va dire peut-être une tendance de plus en plus matérialiste chez lui.
Alors justement, après l'interdiction de Tartuffe, Don Juan, vous le dites, et la réponse de Molière, notamment aux dévots, il y a des monstres sacrés de la littérature, et c'est le cas de Molière. Comment est-ce qu'on peut jouer avec, aujourd'hui, avec ce texte? Comment peut-on, quelque part, le déclassifier, le moderniser?
Alors moi, je crois qu'il n'y a jamais à moderniser les textes, et surtout quand ils sont anciens. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on monte un texte. Alors ça, ça a été le discours beaucoup de la mise en scène dans les années 80, enfin, dans les grandes périodes de la mise en scène, de dire, bon, moi je monte ça, parce que vous voyez, aujourd'hui, il se passe ça, et donc ma pièce fait écho à ça. Je pense que des œuvres comme Don Juan et plein d'autres qui, je dirais, sont des œuvres ouvertes.
En même temps, pardon Nicolas Bouchon, oui, mais vous avez raconté aussi avec Jean-François Sivadier, qui s'y essaye pour la deuxième fois hein, à Don Juan, que vous avez aussi choisi de le remettre en scène comme une réponse aux attentats de Charlie Hebdo. Donc il y a quand même l'idée...
Moi, j'ai pas dit ça.
Non, c'est Jean-François Sivadier. Mais il dit qu'il l'a fait dans une discussion avec vous.
Ah bon?
Ça vous semblait être un...
Ah, oui, oui. Non, non, mais bien sûr. Quand on discute des pièces, on discute de tout ça, évidemment.
Alors pourquoi là, refaire Don Juan en 2016?
Ce que je veux vous dire qui est intéressant, c'est que l'expérience qu'on fait sur le plateau, quand on joue, au moment où on joue, dans les 2h30 où on joue, on n'a jamais l'impression qu'on joue, qu'on prend une pièce du 17e et qu'on va actualiser. C'est pas ça du tout qui se passe. C'est que c'est ce qui se passe à l'extérieur qui rentre dans la pièce. Vous ne trouverez pas, au moment de l'année dernière, au moment des attentats, tous les gens qui jouaient à ce moment-là au théâtre vous disaient oh, « c'est incroyable comme le spectacle qu'on faisait, quel que soit le texte et quelle que soit la troupe et tout ça, tout le monde disait « c'est incroyable comme ça résonnait ce qu'on disait dans la salle ». Donc si vous voulez, on pense jamais à ça, mais c'est l'extérieur qui vient rencontrer une œuvre aussi. C'est pas l'œuvre qui serait au-dessus des événements, etc. C'est les événements qui rentrent dans l'œuvre. Ils peuvent, ces événements, rentrer dans l'œuvre quand l'œuvre, ce que je disais, est une œuvre suffisamment ouverte et suffisamment généreuse. Et je dirais que généreuse, c'est un terme qui s'applique bien à Molière. Parce que c'est vraiment un théâtre qui passe par l'énergie, par le corps. C'est un théâtre du don, Molière. C'est un théâtre de la dépense.
Alors Molière dit pas dans cette pièce s'il faut croire ni en qui ou en quoi il faut croire, hein, c'est plutôt une pièce sur le doute. Si vous remettez 2 minutes votre costume, comment vous dites déjà? On n'a pas besoin de lumière quand on est guidé par le ciel?
Ça c'est le commandeur qui dit ça.
C'est le commandeur.
Ouais, bon. C'est la statue de Pierre qui dit ça. Non, la chose... Molière... Bon, on sait, hein, il se dresse contre quoi? Contre la partie de la religion, fondamentaliste, traditionnaliste, voilà, le parti des dévots, voilà. La religion comme superstition. C'est contre ça qu'il se bat, Molière, à travers Don Juan. Et d'ailleurs, voilà, on peut pas lire Don Juan misanthrope, Tartuffe, séparément. C'est des pièces qui sont en miroir. Et Don Juan, à la fin, sur le monologue de l'hypocrisie, est lui-même une sorte de Tartuffe. Voilà. Donc Molière, il se bat contre ça. Ce qui fait agir dans la pièce Molière, et qui est assez incroyable, c'est, à travers le personnage de Don Juan, c'est un chaos, c'est un désordre, c'est une pièce où il y a tout le temps des affrontements. Il y a des affrontements entre Sganarelle et Don Juan, mais il y a des affrontements entre Don Juan et son père, entre Don Juan et Elvire, entre Don Juan et Monsieur Dimanche. C'est tout le temps de l'affrontement. Donc c'est tout le temps du dissensus. Ce qui nous montre, ce qui ressort de ça, c'est que finalement, on n'est jamais ensemble tous d'accord, mais c'est dans nos désaccords qu'il y a de l'humanité qui arrive.
Et donc, il est en affrontement aussi avec lui-même. Et c'est un homme qui ne croit pas, comme il est dit, aux faveurs, qui ne croit qu'aux faveurs, pardon, du hasard et aux forces de la nature.
Ça, c'est Lucrèce.
Et il faut, c'est vraiment cette idée-là.
C'est
symbolisé aussi dans toute la mise en scène et dans la scénographie et dans ce décor évolutif, qui montre aussi ses différents états, ses chamboulements intérieurs, son évolution par cet affrontement et cette contradiction que vous venez d'évoquer. Ça va de la tempête au dénuement, à la fin de la pièce, à ce ciel qui est effectivement chargé d'étoiles, de planètes, et qui, petit à petit, la scène se vide au fur et à mesure. Il arrive où, finalement, à quel point, à quel raisonnement Don Juan, sur ce rapport qu'il peut entretenir, à ce doute, ça l'amène où, de douter? À la mort, oui.
À la mort.
On connaît tous la fin. Juste avant.
Non, mais c'est intéressant, parce que la mort dans Don Juan, si vous voulez, c'est un invariant du mythe. Alors, est-ce qu'il faut la prendre comme une fin en soi par rapport à la pièce de Molière? Non. Molière, il reprend les trois invariants, la statue de Pierre, la mort, et le groupe féminin, je dirais. Ça, c'est ce qui garde du mythe. Donc, quelle serait, je ne sais pas, à la façon de Molière, la fin, c'est Sganarelle qui l'a dit. C'est mes gages, mes gages, mes gages, mon fric, mon fric, mon fric. Il y a toujours chez Molière une espèce de, dans le sarcasme de Molière, il y a une forme d'humanité qui agit là. Donc, le dernier qui parle, c'est Sganarelle, et c'est celui qui est tout seul et qui a perdu son miroir, son pendant, qui est Don Juan.
Mais il y a aussi le doute qui a un prix, quand même. Don Juan, il a raison de craindre ce courroux céleste, quelque part, hein, et Sganarelle de le mettre en garde sur cette idée que le ciel punit tôt ou tard les impies, non?
Ça, c'est vous qui le dites.
Don Juan, je constate qu'il finit seul, nu, écrasé par cette doxa, et que c'est peut-être pas toujours bien d'aller contre la morale, contre l'institution, contre le pouvoir, contre la religion, contre les puissants. Si?
Ça, c'est la visée tout à fait chrétienne de la pièce, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Molière introduit un grain de sable à l'intérieur de ça. À travers la pièce de Tirso de Molina, le bourlador de Séville, qui est vraiment qui a une visée chrétienne, Molière commence à faire un peu le mythe, je dirais. Puisque le mythe, ensuite, surtout au 19e, va devenir l'inverse de ce qu'il était au début.
Moi, en tout cas, après vous avoir vu Nicolas Bouchaud sur la scène du théâtre de l'Odéon dans Don Juan, mise en scène par Jean-François Civadier, j'ai décidé de me soumettre, de me résigner et d'arrêter de douter. France Culture, il est midi 19.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Artigas, Ne me suis pas, la Canadienne Alejandra Ribera, entre jazz et pop douce. C'est un extrait de son album La Polka. Elle sera en concert ce soir au Festival de Marne Festi, Val-de-Marne en fait, il faut le dire comme ça. C'est un festival du Val-de-Marne, comme vous l'aurez compris, Nicolas Bouchaud. On a peu parlé des femmes, on pourrait parler aussi des comédiennes qui sont derrière les femmes. Et ce que je vous laisse faire, puisque c'est vous, Don Juan, Nicolas Bouchaud. Elvire, Charlotte, Mathurine, est-ce qu'elles incarnent chacune aussi des visages, des figures féminines très différentes?
En tout cas, socialement, oui, puisque Elvire est plutôt du bord de Don Juan. Enfin, je veux dire, ils sont plutôt égaux ensemble. Et puis ensuite, il y a Charlotte qui est la paysanne, c'est tout le deuxième acte. Donc, non, elles sont très différentes, les femmes dans Don Juan. Enfin, il n'y en a que trois. qu'on voit, et elles sont interprétées par Lucie Vallon et Marie Vial.
Deux comédiennes pour trois femmes.
Deux comédiennes pour trois femmes, absolument. Ce que voulait faire, et puis il y a aussi Vincent Guédon qui joue Sganarelle, Stéphane Butel et Marc Arnaud. Jean-François voulait qu'il y ait une distribution resserrée dans ce Don Juan, puisque c'est une pièce qu'on peut jouer à 10 acteurs, et là on n'est que 6. Donc chacun endosse plusieurs rôles, en fait.
Et vous arrivez à le cerner, vous, finalement, ce Don Juan, parce que malgré ses déclarations d'intention, ses professions de foi, ses certitudes sur l'amour, les plaisirs de la vie, on sent qu'il est assez insaisissable. Et justement, pour essayer de le saisir, il y a Sganarelle, joué par Vincent Guédon, qui est un peu quoi? Alors, sa mauvaise conscience, son parafoudre contre l'Église, les femmes, contre les frères et les maris jaloux, son complice obligé, son faire-valoir. Qu'est-ce qui est
très drôle, parce qu'il faut quand même rappeler que la pièce est une comédie, hein, même si on parle de choses un peu graves et tout ça, c'est quand même une comédie. Dont
et vous jouez d'ailleurs beaucoup sur scène de ce côté burlesque que peut avoir la pièce.
Oui, c'est-à-dire qu'on parle jamais très peu de ça avec Molière, hein, mais je veux dire, il y a Molière l'écrivain, et puis c'est quand même Molière, c'est le premier qui s'étonnait au moment de l'apparition des Précieuses Ridicules qu'on puisse imprimer des pièces. Pourquoi? Parce que dans l'impression des pièces, on n'avait pas ce qu'était
ce qu'apportait le jeu, finalement.
Le spectacle, ce qu'était le spectacle. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de cornes en Molière. Et on sait très bien que la Commedia dell'arte a été une chose très importante pour lui. Don Juan Sganarelle, voilà, il n'existe que l'un par rapport à l'autre. Ce qui est très drôle chez Sganarelle, c'est que c'est un valet, mais qui ne sert à rien. Il n'y a pas une fois dans la pièce où il remplit ses fonctions. Il n'est là que pour discuter. Alors c'est le côté Jacques le Fataliste et son maître, c'est-à-dire que la pièce c'est aussi une discussion ininterrompue mais constamment interrompue par les visites des uns et des autres entre Don Juan et Sganarelle. Donc on comprend effectivement Don Juan par rapport à Sganarelle. Mais la particularité, pour finir là-dessus, sur ce côté insaisissable et très erratique de Don Juan, c'est que Don Juan, il se laisse comprendre, ou voir plus exactement que comprendre, ça reste une énigme, hein, mais c'est assez beau, dans ses silences. Il y a quelque chose dans la pièce qui est fondamental, c'est le silence de Don Juan. Quand les autres arrivent, il les laisse parler, il les laisse s'enferrer, et à la fin, il attaque. Mais seulement à la fin. Donc Don Juan, c'est celui qui laisse parler, c'est celui qui laisse l'autre s'enferrer dans ses raisonnements. Et c'est dans ce silence qu'on peut peut-être saisir quelque chose de cette figure, plus que de ce personnage, parce que c'est vraiment une figure qui se métamorphose constamment dans la pièce. C'est proprement quelqu'un d'insaisissable. Peut-être qui nous attire aussi vers lui.
Pour terminer, juste une question, rapidement. Je me demandais, en quoi pour vous, Don Juan est un héros quand même, typiquement moliérien, ou je ne sais pas comment on dit. Est-ce qu'il l'est, ou est-ce que c'est
pour moi,
un personnage, une figure très à part
moi,
dans
l'œuvre
de Molière?
Je trouve que c'est une figure à part. Je dirais qu'un héros typiquement moliéresque ou moliérien, je ne sais pas, ça serait Alceste ou Harpagon, ça serait, ou Orgon dans Tartuffe, ça serait ces personnages-là, ces personnages de ridicule, qui sont également extrêmement touchants. Mais je dirais que Don Juan est vraiment à part.
Nicolas Bouchaud, vous restez avec nous. On va retrouver notre partenaire du Parisien Magazine. « Comme tous les jeudis, sortons ailleurs avec notre partenaire du Parisien Magazine, François V. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Et ce midi, une exposition de peintres européens, une série belge et l'histoire d'un grand flic.
Si on y arrive. Alors, d'abord, je voudrais vous faire partager un emballement. Au musée Marmottan à Paris, j'ai pris une formidable leçon de peinture grâce à une exposition originale où l'on présente aux visiteurs le travail de trois peintres qui se sont confrontés aux choses impossibles à peindre. Le soleil, la neige, la nuit, la glace. Tout part de Claude Monet, il vécut de 1840 à 1926, et on le retrouve en compagnie de deux artistes qui furent ses contemporains, le Suisse Ferdinand Hodler et puis le Norvégien Edvard Munch. Ces trois artistes n'appartenaient pas à la même école, ils n'ont pas cherché à se rencontrer, mais ils ont partagé le même goût pour faire des paysages difficiles. Hodler, il s'attaque à la haute montagne, se met à peindre des glaciers, des lacs de haute montagne, bref. Pendant ce temps-là, le Norvégien Munch se tourne vers le soleil et le regarde en face, ce qui donne des toiles délirantes, presque psychédéliques avant l'heure. Monet, dont on connaît le chef-d'œuvre Impression soleil levant, eh bien le jour où la scène est prise par les glaces, c'est la débâcle à Vétheuil de l'hiver 1880, il se précipite. À chaque fois, ce qui les mobilise, c'est le défi technique, la lumière la plus crue, la blancheur qui aveugle. Donc ces artistes qu'on a réunis à Marmottan partagent la même volonté de donner à ressentir plutôt que de donner à voir. Et pour assouvir leur quête, ce qui est marrant, c'est qu'ils voyagent tout le temps. Donc le Norvégien sera en France, tandis que Monet peint des paysages en Norvège en se donnant un mal de chien compte tenu des conditions climatiques. On sent qu'ils ont voulu, tous les trois, à différents moments, aller jusqu'aux limites de leur art et de la perception humaine. Et c'est une expo qui s'avère stimulante sans être jamais laborieuse.
Alors après, vous avez un autre coup de cœur, mais pour une série policière belge.
Eh oui, oui. Vous savez, dans le domaine des séries, on a l'impression que série et série policière, c'est devenu synonyme. Donc, pour arriver à percer là-dedans, c'est très difficile. Alors, si cette série télé intitulée La Trêve mérite vraiment le détour, c'est parce qu'elle nous immerge dans un univers insoupçonnable, les Ardennes belges. Les forêts de cette région sont sublimes à l'écran et elles servent l'intrigue. Alors, l'intrigue, c'est un footballeur togolais qui disparaît une nuit et est retrouvé mort dans une rivière du coin. On pense qu'il s'est jeté d'un pont pour mettre fin à ses jours. Mais le parti pris du réalisateur, Mathieu Donc, c'est de nous faire découvrir d'un même mouvement la sauvagerie des lieux et la sauvagerie des habitants. Et on se sert du personnage central du flic, la revenue sur ses terres, pour nous montrer un peu cette région qui est en proie à deux forces criminelles un peu insoupçonnables et inattendues. Le pouvoir local qui a décidé de faire un barrage géant et d'engloutir tout le monde. Les bêtes sont empoisonnées, les fermiers tremblent, la carte des opérations s'orne de grosses pastilles de couleurs. Et puis le plus inattendu, c'est l'intrusion de la mafia albanaise qui truque les matchs de foot locaux pour le plus grand profit de l'industrie des jeux. Et le jeune Togolier, il est pris dans leur filet. Je trouve que les Belges font preuve d'une audace tranquille. Ça rappelle un peu True Detective et les grandes séries danoises.
Et on va terminer, François V, par l'histoire d'un flic vedette, Michel Néret. Ouh là là.
Et oui,
vous
parce
l'avez
que...
lu ?
Mais moi j'ai lu et j'ai adoré, je vais vous dire pourquoi. J'ai découvert ce grand flic au moment de son arrestation à l'automne 2011. Ça a été le numéro 2 de la police judiciaire à Londres. À présent, cette star de l'anti-gang publie un livre où il se raconte. Et c'est extrêmement touchant. Par moments, on a l'impression de lire l'histoire du petit chose. C'est un gamin perpétuellement émerveillé par la belle vie qu'il mène. Il y a tout dans ce livre pour faire un biopic dément. Je suis prêt à prendre les paris. Un Olivier Marchal risque bien de porter à l'écran la vie de son ami Néret. Et il a un matériau romanesque fantastique à sa disposition.
Mais peut-être qu'il y aura un contre-pied, on verra. Merci beaucoup François V pour ces idées de sortie et de lecture, de visionnage en gros pour le week-end, à retrouver détaillé dans les pages du Parisien Magazine. Merci mille fois à vous Nicolas Bouchot. Toutes les dates de la tournée de Don Juan, mise en scène par Jean-François Civadier, sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr. Il y aura du Lausanne, il y aura du Nantes, il y aura du Strasbourg et encore du Grenoble. À suivre dans la deuxième partie de la Grande Table, 5 minutes avant 13h, Jean-Claude Miller qui relie pour nous la Révolution.